Oui, bah, qu'est-ce qu'il a fait ce brave Darwin? Il a fourni une explication rationnelle de l'instabilité du monde vivant. Le fait qu'il n'y ait pas deux personnes dans cette salle qui aient le même visage est une expression de l'instabilité de la matière biologique. Alors Charles Darwin, il en offre une explication rationnelle. Il explique la nature à partir des seules ressources de la nature. Au demeurant, puisqu'on a appelé à faire dans les exposés plus de mentions internationales, expliquer la nature avec les seules ressources de la nature, on l'a fait dans l'Antiquité grecque, on l'a fait dans ces merveilleux siècles de sciences arabes autour du 10e, 13e siècle en Afrique du Nord, et on le refait émerger en quelque sorte, d'ailleurs grâce aux traductions que les Arabes nous ont laissées des textes antiques grecs et latins, on le refait au 17e et 18e siècle européen. Donc on est là sur des problématiques qui ne sont pas européo-centré, on est sur quelque chose de beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'une appréhension scientifique? Qu'est-ce qu'une appréhension rationnelle du monde réel? Alors ce brave Darwin, il donne une explication naturelle de l'instabilité de la nature, et pourtant, alors si on parle d'aujourd'hui de théorie darwinienne de l'évolution, darwinienne parce que le cœur de l'explication fournie par Darwin, il est toujours valide. La variation première qui apparaît dans les individus biologiques, pas nécessairement au bénéfice de leur porteur, des variations qui apparaissent de manière fortuite, l'altération de la matière tout simplement. Il n'est pas de matière qui ne s'altère pas. Donc la matière s'altère, les êtres biologiques se changent donc, et ces changements fortuits ne sont pas nécessairement au bénéfice des porteurs. De temps en temps, ces changements peuvent produire un bénéfice local et momentané pour le porteur. Et puis les milieux, donc, eh ben, les milieux vont être tels que certains porteurs vont peut-être faire plus de générations aux générations suivantes. Et ainsi, les variations fortuitement avantagées vont avoir une fréquence plus élevée dans les générations suivantes. Le flux généalogique change. Les êtres biologiques ne sont pas des photocopies, permettez-moi la métaphore. L'être biologique est une machine à fabriquer de la copie non conforme, c'est-à-dire qu'en fait les enfants ne ressemblent pas nécessairement à leurs parents, et etc. Je ne rentre pas dans le détail. Quel est le scandale avec ça? On n'enseigne pas l'évolution ni en Roumanie, ni en Grèce, on ne l'enseigne plus en Turquie, on ne l'enseigne pas en Hongrie, on ne l'enseigne plus en Pologne. Il s'est bien failli qu'il soit plus enseigné, elle ne soit plus enseignée en Italie. Même chose en Serbie. Les Américains doivent régulièrement batailler pour que l'évolution reste au programme scolaire dans plusieurs États. Je ne vous parle pas des Australiens, c'est encore pire. Les Autrichiens ont eu des problèmes. On n'enseigne pas l'évolution dans certaines écoles suisses. On l'enseigne difficilement en Afrique du Nord. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment là sur des problématiques internationales. Pourtant, moi ce qui me frappe, c'est que les sciences sont laïques, de fait, à l'international aussi. Et je conclurai par là. C'est quand même paradoxal, quelque part, que les scientifiques dans leur métier soient animés de la genèse d'une connaissance rationnelle à portée universelle, et que pourtant la production des sciences dans les systèmes éducatifs des différents pays du monde n'en tienne pas compte. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, tout se passe comme si en science on pouvait faire son marché. Il y a des théories scientifiques qui sont politiquement recevables dans certains pays, et puis d'autres théories qu'il faudrait mieux cacher, vous voyez. Comme si nous, scientifiques, on n'était pas animés d'un universalisme des savoirs. Universalisme qui vient de quoi? Qui vient d'une règle du jeu que les professionnels de la science respectent à l'international. Et je vais expliciter cette règle du jeu ici et maintenant. Je parle des règles du jeu d'aujourd'hui, je ne parle pas des règles d'hier. Évidemment que la pratique des sciences a changé au cours des siècles, bien entendu. Et là on va tenter d'expliciter les règles d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est politiquement important? Bon, vous l'avez deviné. Dans plusieurs pays du monde, très particulièrement aux États-Unis d'Amérique et en Australie, il y a des gens qui utilisent la peinture de la science pour colorier le cheval de Troie, à l'intérieur duquel on va faire rentrer des propos théologiques et idéologiques à l'école publique. C'est exactement ce qui s'est passé en décembre 2005 au procès de Dover en Pennsylvanie, où il s'est agi lors de ce procès de statuer sur la recevabilité de la théorie du dessin intelligent en tant que théorie scientifique. Si le verdict est oui, alors le think tank conservateur qui s'appelle le Discovery Institute, et je suis tout à fait d'accord avec Véronique sur le fait que c'est un travail idéologique, le think tank en question produit pour les partis conservateurs américains prépare en quelque sorte une théocratie aux États-Unis d'Amérique. Comme on ne peut pas enseigner un propos religieux à l'école publique aux États-Unis, eh bien, la stratégie va consister à faire passer un propos, enfin, soyons clairs, à faire passer la théologie naturelle de l'anglican William Paley comme étant recevable en tant que théorie scientifique au laboratoire, de manière à réussir à le faire enseigner à l'école. Si je m'exprime devant vous aujourd'hui, ce n'est pas que l'enjeu soit en science. Le dessin intelligent fait rire tous mes collègues. Il y a des haussements d'épaules. D'ailleurs, je ne me satisfais pas du haussement d'épaules. Je trouve que mes collègues sont socialement irresponsables de rigoler et de hausser les épaules. Et l'enjeu, il n'est pas dans mon laboratoire. La théorie de l'intelligent design, c'est la mobilisation d'un principe providentialiste à la paillasse pour faire face à la première difficulté expérimentale. Vous pensez bien que, comme le disait Paul Valéry, le spiritualisme est le petit effort de la pensée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on mobilise la providence au laboratoire, il n'y a plus de manip à faire. C'est terminé. Moi, j'arrête mon travail. Donc, les collègues, ils rigolent. Mais sur le plan sociopolitique, ils ont tort de rigoler parce que le véritable enjeu, il n'est pas chez nous, bien sûr. Le véritable enjeu, il est à l'école. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. En quatrième de couverture, vous verrez que l'enjeu, il est à l'école publique. Qu'est-ce qu'on enseigne comme science, comme étant science à l'école? Alors, le procès de Dover nous montre bien que il y a un moment dans la société où l'épistémologie, c'est-à-dire ce qu'on a l'impression de voir comme étant du débat éthéré entre spécialistes, eh bien, ça, un jour ou l'autre, ça rencontre la politique. Quiconque a fait partie d'un cercle de décision sur les programmes scolaires ou d'un cercle de décision sur ce qu'on enseigne à l'université ou des décisions, on va dire, même plus décision plus difficile à prendre sur l'utilisation des applications des sciences, ce sont des cercles de décision où toujours l'épistémologie, c'est-à-dire en fait le discours qui consiste à comprendre ce qu'on fait quand on fait de la science, comment la science se pratique, quelles sont les normes de scientificité, alors pour ne pas dire normes, je préférerais le mot contrat, quels sont les contrats de scientificité, eh bien c'est un moment où ça rencontre le monde politique parce qu'il va falloir prendre des décisions qui intéressent tous nos concitoyens sur ce qui est enseignable à l'école en tant que science. Donc c'est un point sur lequel j'insiste, et les créationnistes ne s'y sont pas trompés. Alors je vous propose une petite typologie du créationnisme international pour vous montrer que dans leur stratégie, ça, ils l'ont bien compris. Qu'il y a des endroits où l'épistémologie et la politique se rencontrent, et si on veut faire passer le propos théologique comme un propos enseignable à l'école publique, il va falloir manipuler les périmètres de scientificité. Alors pour commencer sur une petite typologie, je ne parle pas du créationnisme philosophique. Comment dire ? Je ne vais m'intéresser qu'au créationnisme qui vient mettre son pied en science. Je ne suis pas habilité, en tant que chercheur à m'exprimer devant vous, je ne suis pas habilité à aller statuer sur la recevabilité d'un créationnisme philosophique qui consisterait à dire que la matière ne se suffit pas elle-même pour manifester tous les changements que nous lui voyons. Ça, les scientifiques n'ont pas accès à ce genre d'affirmation ou d'information. Je m'intéresse à ce à quoi les scientifiques ont vraiment accès, c'est-à-dire en fait à une critique du créationnisme qui se présente lui-même comme scientifique. Et nous, évidemment, en tant que scientifiques de métier, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans? On regarde, alors qu'est-ce qu'on voit? Donc, un créationnisme d'abord négationniste. Première version, le créationnisme négationniste du phénomène de l'évolution. Non, il n'y a pas d'évolution. Donc, la négation pure et simple. Alors ça, on le trouve dans des versions du créationnisme anglo-saxon dans le sud des États-Unis dans les années 20, en Australie aussi, mais on le trouve plus récemment chez Adnan Oetker, dont le nom publié est Harun Yahya, et qui envoie dans tous les lycées français le fameux atlas de la création dont vous avez entendu parler, un livre de 7 kilos en quadricromie, où on vous montre une photo de fossile, une photo d'actuel, sur la même page, on vous fait croire que le fossile est le même que l'actuel, et on vous dit, regardez, il n'y a pas d'évolution, les fossiles sont les mêmes que les actuels sont les mêmes que les fossiles. Et ça pendant 700 pages. Alors il y a des fautes taxonomiques énormes entre les fossiles et les actuels, ça va jusqu'à l'embranchement des différents animaux, hein. On a un échinoderme fossile, un vertubicole actuel, puis on dit que c'est les mêmes. Mais le problème n'est pas là, parce que on pourrait passer une semaine à relever toutes les erreurs du livre. C'est le chapitre qui compte vraiment, c'est le dernier chapitre, hein, qui montre vraiment le travail idéologique, précisément, qui est fait derrière, où on rend responsable Charles Darwin, le pauvre, qui a osé expliquer le monde de la nature uniquement qu'avec les ressources de la nature, hein, sans mobiliser la providence. C'était ça son grand péché, si je peux dire. Eh bien, on rend Darwin responsable tour à tour de la chute des Twin Towers en septembre 2001, du stalinisme et de l'hitlérisme. Darwin n'avait aucun projet de cette nature-là. Il suffit de le lire. Moi, je vous renvoie à la première édition de L'Origine des espèces. C'est un livre de biologie fondamentale. C'est 150 ans de programme de recherche. C'est formidable. Mais Darwin ne met pas pied dans le sociopolitique. C'est son contemporain Spencer qui va le faire. Au moment où Darwin se tait sur l'homme entre 1859 et 1871, il y a un type qui parle à sa place et que Darwin n'a jamais accrédité. C'est Herbert Spencer qui malheureusement va faire beaucoup de dégâts dans ce qu'on va appeler plus tard le darwinisme, alors que moi je ne vous parle que de la théorie darwinienne de l'évolution. Donc le négationnisme, bon, il est assez grossier, vous en conviendrez. En France, il fait rigoler, donc je ne vais pas insister. Je vais tout de suite sur du plus sophistiqué. Dans les années 69-70, les créationnistes anglo-saxons ont compris que si on niait l'évolution, on ne remporterait pas l'assentiment des couches moyennes éduquées. Et donc, il faudrait devenir scientifique. Alors c'est Henry Morris et Duane Gish qui inventent ce qu'on appelle la creationist science, c'est-à-dire la science créationniste qui va consister à prouver scientifiquement la vérité du contenu littéral de la Genèse biblique. Et là, on va voir donc, comme l'a très bien décrit d'ailleurs le paléontologue américain Stephen Jay Gould dans plusieurs de ses livres, on va voir des faux naître. Pour vous donner une idée du genre de faux qui était produit dans les musées de la création à San Francisco notamment, dans une vitrine, on vous montre un trilobite. Alors un trilobite, c'est un petit animal qui ça ressemble un peu à une espèce de gros cloporte, pour faire court. Et ce sont des animaux qui ont disparu complètement, puisqu'ils se sont éteints, voici 250 millions d'années, lorsqu'on passe de l'ère primaire à l'ère secondaire. Il n'y a plus de trilobite dans la faune actuelle. Et dans ce musée, il y a une plaque d'argile, où vous avez un trilobite qui est écrasé, et en contre-empreinte, il y a un pied humain qui écrase dans la plaque, un pied humain qui écrase le trilobite, et on vous explique que lors du déluge, eh bien, l'homme a écrasé un trilobite et que ce fossile est une preuve de la contemporanéité des trilobites et des humains. Mais il n'y a pas qu'à San Diego, à Marseille, il y a des laboratoires de sédimentologie créationniste où Guy Berthaud, dans les années 80, faisait circuler des flux liquide dans des circuits avec des minéraux de différentes gradiométries et essayer de prouver que lorsqu'on met différents sables, minéraux, substances dans un flux liquide en circulation, ces flux pouvaient éventuellement se déposer de manière ordonnée, c'est-à-dire structurée en couches. Évidemment, derrière, on avait là un modèle de sédimentologie diluvienne. Toutes les couches sédimentaires se sont déposées en une seule fois pendant le déluge. Alors autant le montage expérimental était fait pour que ça se dépose de telle manière. Évidemment, ça n'était qu'un processus analogique. Bon, je passe. Là on est, vous le comprendrez, dans quelque chose qui ne peut pas être de la science. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, puisqu'on va expliciter la règle du jeu des scientifiques. Donc, je vous laisse ça de côté et j'y reviendrai. La troisième étape du créationnisme, encore plus sophistiqué, c'est le créationnisme normatif, que je peux qualifier de normatif. C'est-à-dire que, bon, allez, on ne nie plus. On n'essaye pas de prouver la vérité du contenu littéral du texte. C'est plus sophistiqué encore. On va modifier les règles du jeu. Parce que le public, en général, on ne lui apprend pas l'épistémo. Il ne sait pas qu'il y a des attendus dans un laboratoire. Enfin, il le sait peut-être, il le sait certainement, il en a l'intuition, mais il n'a pas l'explicitation de cet attendu. À quelle attitude mentale on s'attend d'avoir chez un doctorant qui se propose de devenir un scientifique professionnel? Ça, c'est jamais dit dans la scolarité d'un élève, et n'attendez pas du public qu'il soit clair sur ce qu'on appelle les attendus épistémologiques dans un laboratoire. Alors, comme c'est pas su, ça, comme c'est pas dit, eh bien, on peut. C'est ces gens du Discovery Institute, justement, les gens qui sécrètent l'intelligent design, se permettent sans prévenir de refaire la science de l'extérieur. Et ils se comportent comme si, au laboratoire, on était autorisé à mobiliser un principe providentiel. C'est-à-dire. Alors, ils sont malins, ils ne vont pas dire Dieu, ils disent designer, c'est-à-dire qu'il y a un concepteur, en fait. Il y a un concepteur qui est à l'origine de l'adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature, et que ce concepteur est plus efficace à expliquer ce qu'on voit que le principe de variation-sélection, le principe darwinien. Alors, si vous vous y arrêtez un instant, les bras vous en tombent. Alors c'est sophistiqué parce qu'on ne vous raconte pas l'œil, on ne vous ressort pas l'humérus, on vous sort les ribosomes, la régulation génétique, le développement embryonnaire, vous avez l'impression de voir de la science, c'est des machins que vous ne voyez pas tous les jours, vous voyez. Mais le raisonnement, il est d'une naïveté totale, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, si vous mobilisez un concepteur dont on a présupposé, d'abord qu'on n'instancie pas dans le monde réel, mais dont on a présupposé qu'il est omniscient et omnipotent, bien sûr qu'il sera toujours plus efficace à expliquer quoi que ce soit. Et donc, les scientifiques rigolent quand ils voient ça, parce que c'est simplement pas possible de nier à ce point le contrat méthodologique des chercheurs dont je vais parler tout à l'heure. Donc je vous laisse ça de côté pour revenir sur le contrat méthodologique tout à l'heure. Et pour terminer, encore plus sophistiqué, une forme, alors je ne vais pas dire de créationnisme cette fois-ci, mais de spiritualisme englobant. Là, c'est encore plus sophistiqué, et on voit ça dans le monde francophone en particulier, mais pas seulement. C'est ce que va produire, par exemple, la Templeton Foundation aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'en fait, on va mobiliser la collectivité des chercheurs dans un objectif qui outrepasse largement ce à quoi s'était fixé tacitement la communauté des chercheurs. Je m'explique.